L'archevêque de Toulouse a fait avoir à M. de Cadignan 40 000 livres de gratification pour les services qu'il avait rendus à la province. Le plus grand était d'avoir eu sa mère, vieille et laide, Madame de Loménie. Le comte de Saint-Priest a envoyé en Hollande, et retenu à Anvers 8 ou 15 jours après lesquels il est revenu à Paris, a eu pour son voyage 80 000 livres, dans le moment même où l'on multipliait les suppressions de places, d'emplois, de pensions, etc. Le vicomte de Saint-Priest, intendant de Languedoc, pendant quelque temps voulut se retirer et demanda à M. de Calonne une pension de 10 000 livres. « Que voulez-vous faire de 10 000 livres ?» dit celui-ci. Et il fit porter la pension à 20 000. Elle est du petit nombre de celles qui ont été respectées à l'époque du retranchement des pensions par l'archevêque de Toulouse, qui avait fait plusieurs parties de filles avec le vicomte de Saint-Priest. Elle me disait à propos de Madame II, j'ai cru qu'elle me demandait un fou et j'étais prêt de le lui donner. Mais elle me demandait un sou et je le lui ai refusé net. M disait à propos des sottises ministérielles et ridicules, sans le gouvernement, on ne rirait plus en France. En France, disait M, il faut purger l'humeur mélancolique et l'esprit patriotique. Ce sont deux maladies contre nature dans le pays qui se trouve entre le Rhin et les Pyrénées. Et quand un Français se trouve atteint de l'un de ces maux, il a tout à craindre pour lui. Il a plu un moment à Madame la Duchesse de Gramont de dire que M. de Liancourt avait autant d'esprit que M. de Lauzun. M. de Criqui rencontre celui-ci et lui dit « Tu dînes aujourd'hui chez moi. » « Mon ami, cela m'est impossible. »« Il le faut. Et d'ailleurs, tu y es intéressé. Comment ?»« Liancourt y dîne. On lui donne ton esprit. Il ne s'en sert point. Il te le rendra. » On disait de Jean-Jacques Rousseau, « C'est un hibou. »« Oui, dit quelqu'un. Mais c'est celui de Minerve. » Et quand je sors du devin du village, j'ajouterai « déniché par les grâces ». Deux femmes de la cour, passant sur le pont neuf, virent en 2 minutes un moine et un cheval blanc. Une des deux, poussant l'autre du coude, lui dit « pour la catin, vous et moi, nous n'en sommes pas en peine ». En note, allusion à l'ancien proverbe populaire, on ne passe jamais sur le pont neuf sans y voir un moine, un cheval blanc et une catin. Le prince de Conti actuel s'affligeait de ce que le comte d'Artois venait d'acquérir une terre auprès de ses cantons de chasse. On lui fit entendre que les limites étaient bien marquées, qu'il n'y avait rien à craindre pour lui, etc. Le prince de Conti interrompit le harangueur en lui disant « Vous ne savez pas ce que c'est que les princes. » M disait que la goutte ressemblait au bâtard des princes qu'on baptise le plus tard qu'on peut. M disait à M. de Vaudreuil, dont l'esprit est droit et juste, mais encore livré à quelques illusions, « Vous n'avez pas de tête dans l'œil. » Mais il y a un peu de poussière sur votre lunette. Monsieur de B disait qu'on ne dit point à une femme à 3 heures ce qu'on lui dit à 6 ce qu'on lui dit à 9, à minuit, etc. Il ajoutait que le plein midi a une sorte de sévérité. Il prétendait que son ton de conversation avec Madame II était changé depuis qu'elle avait changé en cramoisie le meuble de son cabinet, qui était bleu. Jean-Jacques Rousseau étant à Fontainebleau à la représentation de son devin du village, Un courtisan l'aborda et lui dit poliment, « Monsieur, permettez-vous que je vous fasse mon compliment ?»« Oui, monsieur, dit Rousseau, s'il est bien. » Le courtisan s'en alla. On dit à Rousseau, « Mais y songez-vous, quelle réponse venez-vous de faire ?»« Fort bonne, dit Rousseau. Connaissez-vous rien de pire qu'un compliment mal fait ?» Monsieur de Voltaire, étant à Potsdam, un soir après souper, fit un portrait d'un bon roi en contraste avec celui d'un tyran. Et s'échauffant par degrés, il fit une description épouvantable des malheurs dont l'humanité était accablée sous un roi despotique, conquérant, etc. Le roi de Prusse, ému, laisse tomber quelques larmes. « Voyez, voyez !» s'écria monsieur de Voltaire. « Il pleure, le tigre !» On sait que monsieur de Luynes, n'ayant quitté le service pour un soufflet qu'il avait reçu sans en tirer vengeance, fut fait, bientôt après, archevêque de Sens. Un jour qu'il avait officié pontificalement, un mauvais plaisant prit sa mitre, et, l'écartant des deux côtés, « C'est singulier, dit-il, comme cette mitre ressemble à un soufflet. » Fontenelle avait été refusé 3 fois de l'Académie et le racontait souvent. Il ajoutait « J'ai fait cette histoire à tous ceux que j'ai vus s'affliger d'un refus de l'Académie, et je n'ai consolé personne. » À propos des choses de ce bas monde qui vont de mal en pis, M. disait « J'ai lu quelque part qu'en politique, il n'y avait rien de si malheureux pour les peuples que les règnes trop longs. J'entends dire que Dieu est éternel. Tout est dit. » C'est une remarque très fine et très judicieuse de M. que quelqu'un portant, quelqu'insupportable que nous soient les défauts des gens avec qui nous vivons, nous ne laissons pas d'en prendre une partie. Être la victime de ces défauts étrangers à notre caractère n'est pas même un préservatif contre eux. J'ai assisté hier à une conversation philosophique entre M. D. et M. L., où un mot m'a frappé. M. D. disait « Peu de personnes et peu de choses m'intéressent, mais rien ne m'intéresse moins que moi. » M. L. lui répondit « N'est-ce point par la même raison et l'un n'explique-t-il pas l'autre ?»« Cela est très bien, ce que vous dites là, » reprit froidement M. D. « Mais je vous dis le fait, j'ai été amené là par degré. En vivant, et en voyant les hommes, il faut que le cœur se brise ou se bronze. » Dans ma première jeunesse, j'eus l'occasion d'aller voir dans la même journée M. Marmontel et M. d'Alembert. J'allais le matin chez M. Marmontel, qui demeurait alors chez Mme Geoffrin. Je frappe en me trompant de porte. Je demande M. Marmontel, le Suisse me répond, « M. de Montmartel ne demeure plus dans ces quartiers-ci, » et il me donna son adresse. Le soir, je vais chez M. d'Alembert, rue Saint-Dominique. Je demande l'adresse à un Suisse qui me dit, « M. Starembert, ambassadeur de Venise, la troisième porte... » Non, M. d'Alembert, de l'Académie française. Je ne connais pas. M. Helvétius, dans sa jeunesse, était beau comme l'amour. Un soir qu'il était assis dans le foyer, et fort tranquille, quoique auprès de Mademoiselle Gossin, un célèbre financier vint dire à l'oreille de cette actrice assez haut pour qu'Helvétius l'entendît, « Mademoiselle, vous serait-il agréable d'accepter 600 louis en échange de quelques complaisances ?»« Monsieur, répondit-elle assez haut pour être entendue aussi, et en montrant Helvétius, je vous en donnerai 200 si vous voulez venir demain matin chez moi avec cette figure-là. » La duchesse de Fronsac, jeune et jolie, n'avait point eu d'amant, et l'on s'en étonnait. Une autre femme voulant rappeler qu'elle était rousse, et que cette raison avait pu contribuer à la maintenir dans sa tranquille sagesse, dit « Elle est comme Samson, sa force est dans ses cheveux. » Madame Briseur, célèbre par ses galanteries étant à plombière, plusieurs femmes de la cour ne voulaient point la voir. La duchesse de Gisors était du nombre, et comme elle était très dévote, les amis de Madame Briseur comprirent que si Madame de Gisors la recevait, les autres n'en feraient aucune difficulté. Ils entreprirent cette négociation et réussirent. Comme Madame Briseur était aimable, elle plut bientôt à la dévote, et elles en vinrent à l'intimité. Un jour, Madame de Gisors lui fit entendre que, tout en concevant très bien qu'on eût une faiblesse, elle ne comprenait pas qu'une femme vint à multiplier à un certain point le nombre de ses amants. « Hélas !» lui dit Madame Briseur, « c'est qu'à chaque fois, j'ai cru que celui-là serait le dernier. » Le régent voulait aller au bal et n'y être pas reconnu. « J'en sais un moyen, » dit l'abbé Dubois, et dans le bal, il lui donna des coups de pied dans le derrière. Le régent, qui les trouva trop forts, lui dit « L'abbé, tu me déguises trop. » C'est une chose remarquable que Molière, qui n'épargnait rien, n'a pas lancé un seul trait contre les gens de finance. On dit que Molière et les auteurs comiques du temps eurent là-dessus des ordres de Colbert. Un énergumène de gentilhommerie, ayant observé que le contour du château de Versailles était empuanti d'urine, ordonna à ses domestiques et à ses vassaux de venir lâcher de l'eau autour de son château. La Fontaine, entendant plaindre le sort des damnés au milieu du feu de l'enfer, dit « Je me flatte qu'ils s'y accoutument, et qu'à la fin, ils sont là comme le poisson dans l'eau. » Madame de Nesle avait Monsieur de Soubise. Monsieur de Nesle, qui méprisait sa femme, eut un jour une dispute avec elle en présence de son amant. Il lui dit « Madame, on sait bien que je vous passe tout. Je dois pourtant vous dire que vous avez des fantaisies trop dégradantes que je ne vous passerai pas. Telle est celle que vous avez pour le perruquier de mes gens, avec lequel je vous ai vu sortir et rentrer chez vous. » Après quelques menaces, il sortit et la laissa avec Monsieur de Soubise, qui la souffleta quoi qu'elle pût dire. Le mari alla ensuite conter ce bel exploit, ajoutant que l'histoire du perruquier était fausse, se moquant de Monsieur de Soubise qui l'avait cru et de sa femme qui avait été souffletée. Il s'agissait de corriger Louis XV, jeune encore, de l'habitude de déchirer les dentelles de ses courtisans. Monsieur de Maurepas s'en chargea. Il parut devant le roi, avec les plus belles dentelles du monde. Le roi s'approche et lui en déchire une. Monsieur de Maurepas, froidement, déchire celle de l'autre main et dit simplement « Cela ne m'a fait nul plaisir. » Le roi, surpris, devint rouge, et depuis ce temps ne déchira plus de dentelle. Beaumarchais, qui s'était laissé maltraiter par le duc de Chaulnes sans se battre avec lui, reçut un défi de M. de la Blache. Il lui répondit « J'ai refusé mieux. » M. pour peindre d'un seul mot la rareté des honnêtes gens, me disait que dans la société, l'honnête homme est une variété de l'espèce humaine. Louis XV pensait qu'il fallait changer l'esprit de la nation et causer sur les moyens d'opérer ce grand effet avec M. Bertin, le petit ministre, lequel demanda gravement du temps pour y rêver. Le résultat de son rêve, c'est-à-dire de ses réflexions, fut qu'il serait à souhaiter que la nation fût animée de l'esprit qui règne à la Chine. Et c'est cette belle idée qui a valu au public la collection intitulée « Histoire de la Chine » ou « Annales des Chinois ». Monsieur de Sourches, petit fat, hideux, le teint noir et ressemblant à un hibou, dit un jour en se retirant « Voilà la première fois depuis 2 ans que je vais coucher chez moi. » L'évêque d'Agde, se retournant et voyant cette figure, lui dit en le regardant « Monsieur Perche, apparemment ?» Monsieur de R venait de lire dans une société 3 ou 4 épigrammes contre autant de personnes dont aucune n'était vivante. On se tourna vers Monsieur II, comme pour lui demander s'il n'en avait pas quelques-unes dont il put régaler l'assemblée. « Moi, dit-il naïvement, tout mon monde vit, je ne puis rien vous dire. » Plusieurs femmes s'élèvent dans le monde au-dessus de leur rang, donnent à souper aux grands seigneurs, aux grandes dames, reçoivent des princes, des princesses, qui doivent cette considération à la galanterie. Ce sont en quelque sorte des filles, avouées par les honnêtes gens, et chez lesquelles on va, comme en vertu de cette convention tacite, sans que cela signifie quelque chose et tire le moins du monde à conséquence. Telles ont été de nos jours Madame Brizard, Madame Case et tant d'autres. Monsieur de Fontenelle, âgé de 97 ans, venant de dire à Madame Helvétius, jeune, belle et nouvellement mariée, 1000 choses aimables et galantes, passa devant elle pour se mettre à table, ne l'ayant pas aperçue. « Voyez, lui dit Madame Helvétius, le cas que je dois faire de vos galanteries. Vous passez devant moi sans me regarder. » « Madame, dit le vieillard, si je vous eusse regardé, je n'aurais pas passé. » Dans les dernières années du règne de Louis XV, le roi étant à la chasse et ayant peut-être de l'humeur contre Madame du Barry, s'avisa de dire un mot contre les femmes. Le maréchal de Noailles se répandit en invectives contre elle et dit que quand on avait fait d'elle ce qu'il faut en faire, elle n'était bonne qu'à renvoyer. Après la chasse, le maître et le valet se retrouvèrent chez Madame du Barry, à qui M. de Noailles dit 1000 jolies choses. « Ne le croyez pas, dit le roi. » Et alors il répéta ce qu'avait dit le maréchal à la chasse. Madame du Barry se mit en colère et le maréchal lui répondit « Madame, à la vérité, j'ai dit cela au roi. Mais c'était à propos des dames de Saint-Germain et non pas de celles de Versailles. » Les dames de Saint-Germain étaient sa femme, Madame de Tessé, Madame de Duras, etc. Cette anecdote m'a été contée par le maréchal de Duras, témoin oculaire. Le duc de Lauzun disait « J'ai souvent de vives disputes avec M. de Calonne. Mais comme ni l'un ni l'autre nous n'avons de caractère, c'est à qui se dépêchera de céder. Et celui de nous deux qui trouve la plus jolie tournure pour battre en retraite est celui qui se retire le premier. » Fontenelle, âgé de 80 ans, s'empressa de relever l'éventail d'une femme jeune et belle mais mal élevée, qui reçut sa politesse dédaigneusement. « Ah, madame, lui dit-il, vous prodiguez bien vos rigueurs. » Monsieur de Brissac, ivre de gentilhommerie, désignait souvent Dieu par cette phrase « le gentilhomme d'en haut ». M disait que d'obliger, rendre service, sans y mettre toute la délicatesse possible, était presque peine perdue. Ceux qui y manquent n'obtiennent jamais le cœur, et c'est lui qu'il faut conquérir. Ces bienfaiteurs maladroits ressemblent à ces généraux qui prennent une ville en laissant la garnison se retirer dans la citadelle et qui rendent ainsi leur conquête presque inutile. Monsieur Lory, médecin, racontait que Madame de Sully, étant indisposée, l'avait appelée et lui avait conté une insolence de Bordeux, lequel lui avait dit « Votre maladie vient de vos besoins. Voilà un homme. » Et en même temps, il se présenta dans un état peu décent. Lory excusa son confrère et dit à Madame de Sully force galanterie respectueuse. Il ajoutait « Je ne sais ce qui est arrivé depuis, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'après m'avoir rappelé une fois, elle reprit Bordeaux. » L'abbé Arnaud avait tenu autrefois sur ses genoux une petite fille, devenue depuis Madame du Barry. Un jour, il lui dit qu'elle voulait lui faire du bien, et ajouta « Donnez-moi un mémoire. »« Un mémoire, lui dit-il, il est tout fait. Le voici, je suis l'abbé Arnaud. » Le curé de Bray, ayant passé 3 ou 4 fois de la religion catholique à la religion protestante, et ses amis s'étonnant de cette indifférence, « Moi indifférent, dit le curé, moi inconstant, rien de tout cela. Au contraire, je ne change point, je veux être curé de Bray. » Le chevalier de Montbarret avait vécu dans je ne sais quelle ville de province, et à son retour, ses amis le plaignaient de la société qu'il avait eue. « C'est ce qui vous trompe, répondit-il. La bonne compagnie de cette ville y est comme partout, et la mauvaise y est excellente. » Un paysan partagea le peu de bien qu'il avait entre ses 4 fils et alla vivre tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. On lui dit à son retour d'un de ses voyages chez ses enfants, « Eh bien, comment vous ont-ils reçu? Comment vous ont-ils traité ?»« Ils m'ont traité, dit-il, comme leur enfant. » Ce mot paraît sublime dans la bouche d'un père tel que celui-ci. Dans une société où se trouvait M. de Chevalovre, ancien amant de l'impératrice Élisabeth, on voulait savoir quelques faits relatifs à la Russie. Le bailli de Chabriant dit « Monsieur de Chevalov, dites-nous cette histoire. Vous devez la savoir, vous qui étiez le Pompadour de ce pays-là. » Le comte d'Artois, le jour de ses noces, prêt à se mettre à table et environné de tous ses grands officiers et de ceux de Madame la comtesse d'Artois, dit à sa femme de façon que plusieurs personnes l'entendirent, « Tout ce monde que vous voyez, ce sont nos gens. » Ce mot a couru, mais c'est le millième, et 100 000 autres pareils n'empêcheront jamais la noblesse française de briguer en foule les emplois où l'on fait exactement la fonction de valet. Pour juger de ce que c'est que la noblesse, disait M., il suffit d'observer que M. le prince de Turenne, actuellement vivant, est plus noble que M. de Turenne, et que le marquis de Laval est plus noble que le connétable de Montmorency. M. II, qui voyait la source de la dégradation de l'espèce humaine dans l'établissement de la secte nazaréenne et dans la féodalité, disait que pour valoir quelque chose, il fallait se défranciser et se débaptiser et devenir grec ou romain par l'âme. Le roi de Prusse demandait à d'Alembert s'il avait vu le roi de France. « Oui, sire, » dit celui-ci, en lui présentant mon discours de réception à l'Académie française. « Eh bien, » reprit le roi de Prusse, « que vous a-t-il dit ?»« Il ne m'a pas parlé, sire. » « À qui donc parle-t-il ? » poursuivit Frédéric. C'est un fait certain et connu des amis de M. d'Aiguillon que le roi ne l'a jamais nommé ministre des Affaires étrangères. Ce fut Mme du Barry qui lui dit « Il faut que tout ceci finisse et je veux que vous alliez demain, matin, remercier le roi de vous avoir nommé à la place. » Elle dit au roi « Monsieur d'Aiguillon ira demain vous remercier de sa nomination à la place de secrétaire d'État des Affaires étrangères. » Le roi ne dit mot. Monsieur d'Aiguillon n'osait pas y aller. Madame du Barry le lui ordonna. Il y alla. Le roi ne lui dit rien. Et Monsieur d'Aiguillon entra en fonction sur le champ. M. faisant sa cour au prince Henri à Neuchâtel, lui dit que les Neuchâtelois adoraient le roi de Prusse. « Il est fort simple, dit le prince, que les sujets aiment un maître qui est à 300 lieues d'eux. » L'abbé Raynal, dînant à Neuchâtel avec le prince Henri, s'empara de la conversation et ne laissa point au prince le moment de placer un mot. Celui-ci, pour obtenir audience, fit semblant de croire que quelque chose tombait du plancher et profita du silence pour parler à son tour. Le roi de Prusse causant avec d'Alembert, il entra chez le roi un de ses gens du service domestique, homme de la plus belle figure qu'on put voir, d'Alembert en parut frappé. « C'est, dit le roi, le plus bel homme de mes états. Il a été quelque temps mon cocher, et j'ai eu une tentation bien violente de l'envoyer ambassadeur en Russie. » Quelqu'un disait que la goutte est la seule maladie qui donne de la considération dans le monde. « Je le crois bien, » répondit M. « C'est la croix de Saint-Louis de la galanterie. » Monsieur de la Reynière devait épouser Mademoiselle de Jarinthe, jeune et aimable. Il revenait de la voir, enchanté du bonheur qui l'attendait, et disait à Monsieur de Malesherbes, son beau-frère, « Ne pensez-vous pas, en effet, que mon bonheur sera parfait ?»«
Cela dépend de quelques circonstances. »«
Comment, que voulez-vous dire ?»«
Cela dépend du premier amant qu'elle aura. »
Diderot était lié avec un mauvais sujet qui, par je ne sais quelle mauvaise action récente, venait de perdre l'amitié d'un oncle riche chanoine qui voulait le priver de sa succession. Diderot va voir l'oncle, prend un air grave et philosophique, prêche en faveur du neveu, et essaie de remuer la passion et de prendre le ton pathétique. L'oncle prend la parole et lui conte deux ou trois indignités de son neveu. « Il a fait pis que tout cela, » répond Diderot. «
Et quoi, dit l'oncle ?»«
Il a voulu vous assassiner un jour dans la sacristie, au sortir de votre messe. » Et c'est l'arrivée de deux ou trois personnes qui l'en a empêché.
« Cela n'est pas vrai !» s'écria l'oncle, « c'est une calomnie !»«
Soit, » dit Diderot. « Mais quand cela serait vrai, il faudrait encore pardonner à la vérité de son repentir, à sa position, et au malheur qui l'attendent si vous l'abandonnez. » Parmi cette classe d'hommes nés avec une imagination vive et une sensibilité délicate qui font regarder les femmes avec un vif intérêt, plusieurs m'ont dit qu'ils avaient été frappés de voir combien peu de femmes avaient de goût pour les arts et particulièrement pour la poésie. Un poète, connu par des ouvrages très agréables, me peignait un jour la surprise qu'il avait éprouvée en voyant une femme pleine d'esprit, de grâce, de sentiments, de goût dans sa parure, bonne musicienne et jouant de plusieurs instruments, qui n'avait pas l'idée de la mesure d'un vers, du mélange des rimes,
qui substituait à un mot heureux et de génie un autre mot trivial et qui même rompait la mesure du vers. Il ajoutait qu'il avait éprouvé plusieurs fois ce qu'il appelait un petit malheur, mais qui en était un très grand pour un poète érotique, lequel avait sollicité toute sa vie le suffrage des femmes. Monsieur de Voltaire se trouvant avec Madame la Duchesse de Chaulnes, celle-ci, parmi les éloges qu'elle lui donna, insista principalement sur l'harmonie de sa prose. Tout d'un coup, voilà Monsieur de Voltaire qui se jette à ses pieds. « Ah, madame, je vis avec un cochon qui n'a pas d'organe, qui ne sait pas ce que c'est qu'harmonie, mesure, etc. » Le cochon dont il parlait, c'était Madame du Châtelet, son Émilie. Le roi de Prusse a fait plus d'une fois lever des plans géographiques très défectueux de tel ou tel pays. La carte indiquait tel marais impraticable qui ne l'était point, et que les ennemis croyaient-elles sur la foi du faux plan. M disait que le grand monde est un mauvais lieu que l'on avoue. Je demandais à M pourquoi aucun des plaisirs ne paraissait avoir prise sur lui. Il me répondit « Ce n'est pas que j'y sois insensible, mais il n'y en a pas un qui ne m'ait paru surpayé. La gloire expose à la calomnie, la considération demande des soins continuels, les plaisirs du mouvement, de la fatigue corporelle, la société entraîne mille inconvénients, tout est vu, revu et jugé. Le monde ne m'a rien offert de tel qu'en descendant en moi-même, je n'ai trouvé encore mieux chez moi. Il est résulté de ces expériences réitérées 100 fois que, sans être apathique ni indifférent, je suis devenu comme immobile et que ma position actuelle me paraît toujours la meilleure parce que sa bonté même résulte de son immobilité et s'accroît avec elle. L'amour est une source de peine, la volupté sans amour est un plaisir de quelques minutes, le mariage est jugé encore plus que le reste, l'honneur d'être père amène une suite de calamités, tenir maison est le métier d'un aubergiste. Les misérables motifs qui font que l'on recherche un homme et qu'on le considère sont transparents et ne peuvent tromper qu'un sot, ni flatter qu'un homme ridiculement vain. J'en ai conclu que le repos, l'amitié et la pensée étaient les seuls biens qui convainquent à un homme qui a passé l'âge de la folie. Le marquis de Villequier était des amis du grand Condé. Au moment où ce prince fut arrêté par ordre de la cour, le marquis de Villequier, capitaine des gardes, était chez Madame de Motteville lorsqu'on annonça cette nouvelle. « Oh mon Dieu !» s'écria le marquis, « je suis perdu !» Madame de Motteville, surprise de cette exclamation, lui dit « Je savais bien que vous étiez des amis de Monsieur le Prince, mais j'ignorais que vous fussiez son ami à ce point. » « Comment, dit le marquis de Villequier, ne voyez-vous pas que cette exécution me regardait? Et puisqu'on ne m'a point employé, n'est-il pas clair qu'on a nulle confiance en moi ?» Madame de Motteville, indignée, lui répondit « Il me semble que n'ayant point donné lieu à la cour de soupçonner votre fidélité, vous devriez n'avoir point cette inquiétude et jouir tranquillement du plaisir de n'avoir point mis votre ami en prison. » Villequier fut honteux du premier mouvement, qui avait trahi la bassesse de son âme. On annonça dans une maison où soupait Madame d'Egmont un homme qui s'appelait du Guesclin. À ce nom, son imagination s'allume, elle fait mettre cet homme à table à côté d'elle, lui fait 1000 politesses, et enfin lui offre du plat qu'elle avait devant elle, c'était des truffes. « Madame, répond le sot, il n'en faut pas à côté de vous. »
À ce ton, dit-elle en contant cette histoire, j'eus grand regret à mes honnêtetés. Je fis comme ce dauphin qui, dans le naufrage d'un vaisseau, crut sauver un homme, et le rejeta dans la mer en voyant que c'était un sage. Marmontel, dans sa jeunesse, recherchait beaucoup le vieux Boindin, célèbre par son esprit et son incrédulité. Le vieillard lui dit « Trouvez-vous au café Procope. » Mais nous ne pourrons pas parler de matière philosophique, suffit, en convenant d'une langue particulière, d'un argot. Ainsi, ils firent leur dictionnaire. L'âme s'appelait Margot, la religion Javotte, la liberté Jeanneton, et le Père éternel, Monsieur de l'Être. Les voilà disputants, eux s'entendant très bien. Un homme en habit noir, avec une fort mauvaise mine, se mêlant à la conversation, dit à Boindin, « Monsieur, oserais-je vous demander ce que c'était que ce monsieur de l'être qui s'est si souvent mal conduit et dont vous êtes si mécontent ?»« Monsieur, reprit Boindin, c'était un espion de police. » On peut juger de l'éclat de rire, cet homme étant lui-même du métier. Le Lord Bolingbroke donna à Louis XIV 1000 preuves de sensibilité pendant une maladie très dangereuse. Le roi étonné lui dit « J'en suis d'autant plus touché que vous autres Anglais, vous n'aimez pas les rois. » « Sire, dit Bolingbroke, nous ressemblons aux maris qui, n'aimant pas leurs femmes, n'en sont que plus empressés à plaire à celles de leurs voisins. » Dans une dispute que les représentants de Genève eurent avec le chevalier de Bouteville, l'un d'eux s'échauffant, le chevalier lui dit « Savez-vous que je suis le représentant du roi mon maître ?»« Savez-vous, lui dit le Genevois, que je suis le représentant de mes égaux ?» Un philosophe à qui on reprochait son extrême amour pour la retraite répondit « Dans le monde, tout tend à me faire descendre, dans la solitude, tout tend à me faire monter. » Monsieur de B est un de ces sots qui regardent de bonne foi l'échelle des conditions comme celle du mérite, qui, le plus naïvement du monde, ne conçoit pas qu'un homme non décoré ou au-dessous de lui soit plus estimé que lui. Le rencontre-t-il dans une de ces maisons où l'on sait encore honorer le mérite ? Monsieur de B ouvre de grands yeux, montre un étonnement stupide. Il croit que cet homme vient de gagner un quaterne à la loterie. Il l'appelle « mon cher untel » quand la société la plus distinguée vient de le traiter avec la plus grande considération. J'ai vu plusieurs de ces scènes dignes du pinceau de la Bruyère. J'ai bien examiné M, et son caractère m'a paru piquant. Très aimable, et nulle envie de plaire, si ce n'est à ses amis ou à ceux qu'il estime, en récompense une grande crainte de déplaire. Ce sentiment est juste, et accorde ce qu'on doit à l'amitié et ce qu'on doit à la société. On peut faire plus de bien que lui, nul ne fera moins de mal. On sera plus empressé, jamais moins important. On caressera davantage, on ne choquera jamais moins. L'abbé de Lille devait lire des vers à l'Académie pour la réception d'un de ses amis, sur quoi il disait « Je voudrais bien qu'on ne le fût pas d'avance, mais je crains bien de le dire à tout le monde. » Madame Beauzée couchait avec un maître de langue allemande. Monsieur Beauzée les surprit au retour de l'Académie. L'Allemand dit à la femme « Quand je vous disais qu'il était temps que je m'en aille. » Monsieur Beauzée, toujours puriste, lui dit « Que je m'en allasse, monsieur. » Monsieur Dubreuil, pendant la maladie dont il mourut, disait à son ami Monsieur Péméja Mon ami, pourquoi tout ce monde dans ma chambre? Il ne devrait y avoir que toi, ma maladie est contagieuse. » On demandait à Pémija quelle était sa fortune. 1500 livres de rente.
C'est bien un peu.
Oh, répondit Pémija, Dubreuil est riche. Madame la comtesse de Tessé disait après la mort de Monsieur Dubreuil, il était trop inflexible, trop inabordable au présent, et j'avais un accès de fièvre toutes les fois que je songeais à lui en fer. Moi aussi, lui répondit Madame de Champagne, qui avait placé 36 000 livres sur sa tête. Voilà pourquoi j'ai mieux aimé me donner tout de suite une bonne maladie que d'avoir tous ces petits accès de fièvre dont vous parlez. L'abbé Maury, étant pauvre, avait enseigné le latin à un vieux conseiller de grand chambre qui voulait entendre les institutes de Justinien. Quelques années se passent et il rencontre ce conseiller, étonné de le voir dans une maison honnête.
« Ah, l'abbé, vous voilà, lui dit-il lestement. Par quel hasard vous trouvez-vous dans cette maison-ci ? » ?
« Je m'y trouve comme vous vous y trouvez. »
« Oh, ce n'est pas la même chose. Vous êtes donc mieux dans vos affaires ? Avez-vous fait quelque chose dans votre métier de prêtre ? » ?»«
Je suis grand vicaire de Monsieur de Lombé. »
« Diable, c'est quelque chose.
Et combien cela vaut-il ?
1000 francs. »
« C'est bien peu, et il reprend le ton leste et léger. « Mais j'ai un prieuré de 1000 écus. »«
1000 écus ? Bonnes affaires !» avec l'air de la considération.
« Et j'ai fait la rencontre du maître de cette maison-ci chez Monsieur le cardinal de Rouen. »«
Peste ? Vous allez chez le cardinal de Rouen ?»«
Oui, il m'a fait avoir une abbaye. »«
Une abbaye ?
Ah ! « Cela posé, monsieur l'abbé, faites-moi l'honneur de revenir dîner chez moi. » Monsieur de la Peupelinière se déchaussait un soir devant ses complaisants et se chauffait les pieds. Un petit chien les lui léchait. Pendant ce temps, la société parlait d'amitié, d'amis. « Un ami ?» dit monsieur de la Peupelinière, montrant son chien. « Le voilà. » Jamais Bossuet ne put apprendre au grand dauphin à écrire une lettre. Ce prince était très indolent. On raconte que ses billets à la comtesse du Roux finissaient tous par ces mots « Le roi me fait mander pour le conseil ». Le jour que cette comtesse fut exilée, un des courtisans lui demanda s'il n'était pas bien affligé. « Sans doute, dit le dauphin, mais cependant me voilà délivré de la nécessité d'écrire le petit billet. » L'archevêque de Toulouse, Brienne, disait à monsieur de Saint-Priest, grand-père de monsieur d'Entragues, « Il n'y a eu en France sous aucun roi, aucun ministre qui ait poussé ses vues et son ambition jusqu'où elle pouvait aller. »
Monsieur de Saint-Priest lui dit, « Et le cardinal de Richelieu ?»«
Arrêté à moitié chemin, » répondit l'archevêque. Ce mot peint tout un caractère. Le maréchal de Breuil avait épousé la fille d'un négociant. Il eut 2 filles. On lui proposait, en présence de Madame de Breuil, de faire entrer l'une dans un chapitre. « Je me suis fermé, dit-il, en épousant Madame, l'entrée de tous les chapitres. »«
Et de l'hôpital, » ajouta-t-elle.
La maréchale de Luxembourg, arrivant à l'église un peu trop tard, demanda où en était la messe, et dans cet instant la sonnette du lever-dieu sonna. Le comte de Chabot lui dit en bégayant, « Madame la maréchale, j'entends la petite clochette, le petit mouton n'est pas loin. » Ce sont 2 vers d'un opéra comique. La jeune Madame de M. étant quittée par le vicomte de Noailles était au désespoir et disait « J'aurai vraisemblablement beaucoup d'amants, mais je n'en aimerai aucun, autant que j'aime le vicomte de Noailles. » Le duc de Choiseul, à qui l'on parlait de son étoile, qu'on regardait comme sans exemple, répondit « Elle l'est pour le mal autant que pour le bien. »
« Comment ?»«
Le voici. J'ai toujours très bien traité les filles. Il y en a une que je néglige, elle devient reine de France, ou à peu près. J'ai traité à merveille tous les inspecteurs. Je leur ai prodigué l'or et les honneurs. Il y en a un, extrêmement méprisé, que je traite légèrement, il devient ministre de la guerre, c'est monsieur de Monténard. Les ambassadeurs, on sait ce que j'ai fait pour eux sans exception, hormis un seul. Mais il y en a un, qui a le travail lent et lourd, que tous les autres méprisent, qu'ils ne veulent plus voir à cause d'un ridicule mariage, c'est monsieur de Vergennes, et il devient ministre des Affaires étrangères. Convenez que j'ai des raisons de dire que mon étoile est aussi extraordinaire en mal qu'en bien. Monsieur le président de Montesquieu avait un caractère fort au-dessous de son génie. On connaît ses faiblesses sur la gentilhommerie, sa petite ambition, etc. Lorsque l'esprit des lois parut, il s'en fit plusieurs critiques mauvaises ou médiocres qu'il méprisa fortement. Mais un homme de lettres connu en fit une dont M. Dupin voulut bien se reconnaître l'auteur et qui contenait d'excellentes choses. M. de Montesquieu en eut connaissance et en fut au désespoir. On la fit imprimer et elle allait paraître lorsque M. de Montesquieu alla trouver Mme de Pompadour, qui, sur sa prière, fit venir l'imprimeur et l'édition tout entière. Elle fut hachée et on n'en sauva que 5 exemplaires. Le maréchal de Noailles disait beaucoup de mal d'une tragédie nouvelle. On lui dit « Mais M. Daumont, dans la loge duquel vous l'avez entendu, prétend qu'elle vous a fait pleurer. Moi ? Dit le maréchal. Point du tout. Mais comme il pleurait lui-même dès la première scène, j'ai cru honnête de prendre part à sa douleur. » Monsieur et Madame d'Angevillers, Monsieur et Madame Necker, paraissent deux couples uniques, chacun dans son genre. On croirait que chacun d'eux convenait à l'autre exclusivement, et que l'amour ne peut aller plus loin. Je les ai étudiés, et j'ai trouvé qu'ils se tenaient très peu par le cœur, et que quant au caractère, ils ne se tenaient que par des contrastes. Monsieur T. me disait un jour qu'en général dans la société, lorsqu'on avait fait quelque action honnête et courageuse, par un motif digne d'elle, c'est-à-dire très noble, il fallait que celui qui avait fait cette action lui prêtât pour adoucir l'envie quelques motifs moins honnêtes et plus vulgaires. Louis XV demanda au duc d'Ayen, depuis maréchal de Noailles, s'il avait envoyé sa vaisselle à la Monnaie. Le duc répondit que non. « Moi, dit le roi, j'ai envoyé la mienne. »« Ah, sire, dit M. d'Ayen, quand Jésus-Christ mourut le vendredi saint, il savait bien qu'il ressusciterait le dimanche. » Dans le temps qu'il y avait des jansénistes, on les distinguait à la longueur du collet de leur manteau. L'archevêque de Lyon avait fait plusieurs enfants, mais à chaque équipée de cette espèce, il avait soin de faire allonger d'un pouce le collet de son manteau. Enfin, le collet s'allongea tellement qu'il a passé quelque temps pour janséniste et a été suspect à la cour. Un Français avait été admis à voir le cabinet du roi d'Espagne. Arrivé devant son fauteuil et son bureau, « C'est donc ici, dit-il, que ce grand roi travaille. » « Comment travaille ? » dit le conducteur. « Quelle insolence ! Ce grand roi travaillait ? Vous venez chez lui pour insulter sa majesté ?» Il s'engagea une querelle où le Français eut beaucoup de peine à faire entendre à l'Espagnol qu'on n'avait pas eu l'intention d'offenser la majesté de son maître. Monsieur II, ayant aperçu que Monsieur Barthes était jaloux de sa femme, lui dit « Vous, jaloux ? Mais savez-vous bien que c'est une prétention ? C'est bien de l'honneur que vous vous faites, je m'explique. N'est pas cocu qui veut. Savez-vous que pour l'être, il faut savoir tenir une maison, être poli, sociable, honnête ? Commencez par acquérir toutes ces qualités, puis les honnêtes gens verront ce qu'ils auront à faire pour vous. Tel que vous êtes, qui pourrait vous faire cocu ? Une espèce ? Quand il sera temps de vous effrayer, je vous en ferai mon compliment. » Madame de Créqui me disait du baron de Breteuil, « Ce n'est morbleu pas une bête que le baron. C'est un sot. » Un homme d'esprit me disait un jour que le gouvernement de France était une monarchie absolue tempérée par des chansons. L'abbé de Lille, entrant dans le cabinet de M. Turgot, le vit lisant un manuscrit. C'était celui des mois de M. Roucher. L'abbé de Lille s'en douta et dit en plaisantant « Odeur de verre se sentait à la ronde. » « Vous êtes trop parfumé, lui dit M. Turgot, pour sentir les odeurs. » M. de Fleury, procureur général, disait devant quelques gens de lettres, « Il n'y a que depuis ces derniers temps que j'entends parler du peuple dans les conversations où il s'agit du gouvernement. C'est un fruit de la philosophie nouvelle. » Est-ce que l'on ignore que le tiers n'est qu'adventice dans la Constitution ? Cela veut dire en d'autres termes que 23 900 000 hommes ne sont qu'un hasard et un accessoire dans la totalité de 24 millions d'hommes. Milord Hervey, voyageant dans l'Italie et se trouvant non loin de la mer, traversa une lagune dans l'eau de laquelle il trempa son doigt. « Ah ! Dit-il, l'eau est salée, ceci est à nous !» Duclos disait à un homme ennuyé d'un sermon prêché à Versailles, « Pourquoi avez-vous entendu ce sermon jusqu'au bout ? J'ai craint de déranger l'auditoire et de le scandaliser. Ma foi, reprit Duclos, plutôt que d'entendre ce sermon, je me serais converti au premier point. » Monsieur d'Aiguillon, dans le temps qu'il avait Madame du Barry, prit ailleurs une galanterie. Il se crut perdu, s'imaginant l'avoir donnée à la comtesse. Heureusement, il n'en était rien. Pendant le traitement, qui lui paraissait très long, et qui l'obligeait à s'abstenir de Madame du Barry, il disait au médecin « Ceci me perdra si vous ne me dépêchez. » Ce médecin était M. Busson, qui l'avait guéri en Bretagne d'une maladie mortelle et dont les médecins avaient désespéré. Le souvenir de ce mauvais service rendu à la province avait fait ôter à M. Busson toutes ses places après la ruine de M. d'Aiguillon. Celui-ci, devenu ministre, fut très longtemps sans rien faire pour M. Busson, qui, en voyant la manière dont le duc en usait avec Linguet, disait « Monsieur d'Aiguillon ne néglige rien, hors ceux qui lui ont sauvé l'honneur et la vie. » Monsieur de Turenne, voyant un enfant passer derrière un cheval de façon à pouvoir être estropié par une ruade l'aplat, il lui dit « Mon bel enfant, ne passez jamais derrière un cheval sans laisser entre lui et vous l'intervalle nécessaire pour que vous ne puissiez en être blessé. Je vous promets que cela ne vous fera pas faire une demi-lieue de plus dans le cours de votre vie entière, et souvenez-vous que c'est M. de Turenne qui vous l'a dit. » M. de T., pour exprimer l'insipidité des bergeries de M. Florian, disait « Je les aimerais assez s'il y mettait des loups. » On demandait à Diderot quel homme était Monsieur d'Épinay. « C'est un homme, dit-il, qui a mangé 2 millions sans dire un bon mot et sans faire une bonne action. » Monsieur de Fronsac alla voir une map-monde que montrait l'artiste qu'il avait imaginé. Cet homme ne le connaissant pas et lui voyant une croix de Saint-Louis ne l'appelait que le chevalier. La vanité de monsieur de Fronsac, blessé de ne pas être appelé duc, lui fit inventer une histoire dont un des interlocuteurs, un de ces gens, l'appelait monseigneur. Monsieur de Genlis l'arrêta à ce mot et lui dit « Qu'est-ce que tu dis là, monseigneur ? On va te prendre pour un évêque. » Monsieur de Lassay, homme très doux, mais qui avait une grande connaissance de la société, disait qu'il faudrait avaler un crapaud tous les matins pour ne trouver plus rien de dégoûtant le reste de la journée quand on devait la passer dans le monde. Monsieur d'Alembert eut occasion de voir Madame Denis le lendemain de son mariage avec Monsieur Duvivier. On lui demanda si elle avait l'air d'être heureuse. « Heureuse, dit-il, je vous en réponds, heureuse à faire mal au cœur. » Quelqu'un ayant entendu la traduction des Géorgiques de l'abbé de Lille, lui dit « Cela est excellent. Je ne doute pas que vous n'ayez le premier bénéfice qui sera » à la nomination de Virgile. Monsieur de B et Monsieur de C sont intimes amis, au point d'être cités pour modèles. Monsieur de B disait un jour à Monsieur de C, « Ne t'est-il point arrivé de trouver, parmi les femmes que tu as eues, quelque étourdie qui t'a demandé si tu renoncerais à moi pour elle, si tu m'aimais mieux qu'elle ?»« Oui. » répondit celui-ci. « Qui donc ?»« Madame de M. » C'était la maîtresse de son ami. M me racontait, avec indignation, une malversation de vivrier. « Il en coûta, me dit-il, la vie à 5 000 hommes qui moururent exactement de faim. Et voilà, monsieur, comme le roi est servi. » Monsieur de Voltaire, voyant la religion tomber tous les jours, disait une fois, « Cela est pourtant fâcheux, car de quoi nous moquerons-nous ? » ?»« Oh, lui dit monsieur Sabatier de Cabre, consolez-vous, les occasions ne vous manqueront pas plus que les moyens. » « Ah, monsieur, reprit douloureusement monsieur de Voltaire, hors de l'église, point de salut. » Le prince de Conti disait, dans sa dernière maladie à Beaumarchais, qu'il ne pourrait s'en tirer, vu l'état de sa personne, épuisé par les fatigues de la guerre, du vin et de la jouissance. À l'égard de la guerre, dit celui-ci, le prince Eugène a fait 21 campagnes et il est mort à 78 ans. Quant au vin, le marquis de Brancas buvait par jour 6 bouteilles de vin de champagne et il est mort à 84 ans. Oui, mais le coïd, reprit le prince. Madame votre mère, répondit Beaumarchais, la princesse était morte à 79 ans. Tu as raison, dit le prince. Il n'est pas impossible que j'en revienne. Monsieur le régent avait promis de faire quelque chose du jeune Arouet, c'est-à-dire d'en faire un important et le placer. Le jeune poète attendit le prince au sortir du conseil, au moment où il était suivi de 4 secrétaires d'État. Le régent le vit et lui dit « Arouet, je ne t'ai pas oublié et je te destine le département des niaiseries. »« Monseigneur, dit le jeune Arouet, j'aurai trop de rivaux, en voilà 4. » Le prince pensa étouffé de rire. Quand le maréchal de Richelieu vint faire sa cour à Louis XV après la prise de Mahon, La première chose, ou plutôt la seule, que lui dit le roi fut celle-ci. « Maréchal, savez-vous la mort de ce pauvre Lancemat ?» Lancemat était un vieux garçon de la chambre. Quelqu'un ayant lu une lettre très sotte de M. Blanchard sur le ballon dans le journal de Paris, avec cet esprit-là, dit-il, ce M. Blanchard doit bien s'ennuyer en l'air. Un bon trait de prêtre de cour, c'est la ruse dont s'avisa l'évêque d'Autun Montazé, depuis archevêque de Lyon. Sachant bien qu'il y avait de bonnes frasques à lui approcher et qu'il était facile de le perdre auprès de l'évêque de Mirepoix, le théatin Boyer, il écrivit contre lui-même une lettre anonyme pleine de calomnies absurdes et faciles à convaincre d'absurdité. Il l'adressa à l'évêque de Narbonne, il entra ensuite en explication avec lui et fit voir l'atrocité de ses ennemis prétendus. Arrivèrent ensuite les lettres anonymes écrites en effet par eux et contenant des inculpations réelles. Ces lettres furent méprisées. Le résultat des premières avait mené le théatin à l'incrédulité sur les secondes. Louis XV se fit peindre par la tour. Le peintre, tout en travaillant, causait avec le roi qui paraissait le trouver bon. La tour, encouragée et naturellement indiscret, poussa la témérité jusqu'à lui dire « Au fait, sire, vous n'avez point de marine ?» Le roi répondit sèchement « « Que dites-vous là ? Et Vernet, donc ?» On dit à la duchesse de Chaulnes, mourante et séparée de son mari, « Les sacrements sont là. » Un petit moment. « Le duc de Chaulnes voudrait vous revoir. Est-il là ? Oui. Qu'il attende. Il entrera avec les sacrements. » Je me promenais un jour avec un de mes amis qui fut salué par un homme d'assez mauvaise mine. Je lui demandai ce que c'était que cet homme, il me répondit que c'était un homme qui faisait pour sa patrie ce que Brutus n'aurait pas fait pour la sienne. Je le priai de mettre cette grande idée à mon niveau. J'appris que son homme était un espion de police. Un philosophe retiré du monde m'écrivait une lettre pleine de vertu et de raison. Elle finissait par ces mots « Adieu, mon ami. Conservez, si vous pouvez, les intérêts qui vous attachent à la société, mais cultivez les sentiments qui vous en séparent. » Diderot, âgé de 62 ans et amoureux de toutes les femmes, disait à un de ses amis « Je me dis souvent à moi-même, vieux fou, vieux gueux, quand cesseras-tu donc de t'exposer à l'affront d'un refus ou d'un ridicule ? » Monsieur de C, parlant un jour du gouvernement d'Angleterre et de ses avantages, dans une assemblée où se trouvaient quelques évêques, quelques abbés, l'un d'eux, nommé l'abbé de Segrand, lui dit « Monsieur, sur le peu que je sais de ce pays-là, je ne suis nullement tenté d'y vivre et je sais que je m'y trouverai très mal. » Monsieur l'abbé lui répondit naïvement « Monsieur de C, c'est parce que vous y seriez très mal que le pays est excellent. » Plusieurs officiers français étant allés à Berlin, l'un d'eux parut devant le roi sans uniforme et en bas blanc. Le roi s'approcha de lui et lui demanda son nom, le marquis de Beaucourt. De quel régiment ? De Champagne. Ah oui, ce régiment où l'on se fout de l'ordre. Et il parla ensuite aux officiers qui étaient en uniforme et en bottes. Monsieur de Chaulnes avait fait peindre sa femme en hébé. Il ne savait comment se faire peindre pour faire pendant. Mademoiselle Quinault, à qui il disait son embarras, lui dit « Faites-vous peindre en hébété ?» Le médecin Bouvard avait sur le visage une balafre en forme de C qui le défigurait beaucoup. Diderot disait que c'était un coup qu'il s'était donné en tenant maladroitement la faux de la mort.